RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchet.
À 19h19 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec Isabelle Saporta, que vous entendez tous les matins sur RTL. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe Buisson.
Bonsoir.
Avec Xavier Couture, donc conseiller audiovisuel. Bonsoir.
Bonsoir Marco, bonsoir à tous.
Et puis le directeur du centre d'études et d'analyse politologue, Roland Kayrol. Bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier.
Juste avant le premier sujet, une dernière information. On vous parle des élections présidentielles en Algérie depuis quelques temps et la date vient d'être fixée à l'instant par la présidence, ça sera le 4 juillet prochain, ça devait être en avril, ça sera le 4 juillet prochain. Voilà. Pas de prison pour Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget purgera sa peine avec un bracelet électronique, décision de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bastia en mai 2018. Jérôme Cahuzac avait été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour fraude fiscale. L'ancienne étoile de la Hollandie vit désormais reclus en Corse. Pour son avocat Maître V, la cour n'a pas cédé à la démagogie. Mais pour beaucoup, il y a 2 poids 2 mesures. Même pas un jour de prison pour Jérôme Cahuzac. Alors, est-ce que ça vous choque? Vous trouvez ça juste sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, ben, je ne vous cache pas qu'on n'est pas vraiment ému par cette peine ultra cruelle, comme ironise Quentin. Imaginez un bracelet électronique exilé en Corse quand même. Si Fab nous dit il vaut mieux ziber la République en col blanc qu'en gilet jaune. Fab demande même s'il aura la possibilité de choisir un bracelet en or blanc. Léonard rage que pas de prison pour les corrompus du pouvoir. C'est en effet un très bon signal pour tous les citoyens en colère de ce pays. C'est bien, continuer. Médecine à 2 vitesses, maintenant justice à 2 vitesses, dit Pierre. La France à 2 vitesses, quoi. Mais tout va bien, le grand débat va vite arranger tout ça. Il y a quand même JM qui le rappelle, qui a même des fichiers S sous bracelet électronique, malgré leur dangerosité avérée, et que Cahuzac n'a tué personne. Sa réputation est faite, il est fini. Et puis, Fond nous dit que les Français veulent que l'État fasse des économies. Eh bien, libérer Cahuzac, ça coûte moins cher que la prison et ça décharge un peu les gardiens. Il n'est pas dangereux, franchement, il n'y a pas de problème. Next, Jérémy conclut en nous disant « Non, désolé, les yeux dans les yeux, on n'oubliera jamais.
» Les yeux dans les yeux, évidemment, référence à ce qu'il avait dit en jurant qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Isabelle Saporta, 2 poids 2 mesures, ou alors non, la place de Jérôme Cahuzac n'est pas en prison.
Ouais, mais moi, écoutez, au risque d'être un peu politiquement incorrect, moi, ça me choque pas énormément, en fait, pour tout vous dire. Cet homme, il a payé cette amende de 300 000 euros. De fait, il a menti les yeux dans les yeux. De fait, effectivement, c'était inouï d'avoir ce ministre de l'évasion fiscale, puisqu'il était ministre des Finances, nous dire qu'il a, enfin, ne pas nous dire, mais qu'on se rende compte qu'il a un compte en Suisse. Maintenant, moi, au fond, qu'il soit médecin généraliste en Corse, je pense qu'il sera plus utile en étant médecin généraliste en Corse qu'en étant en prison, où de toute façon, il n'y aura pas de récidive. Donc non, moi je ne trouve pas que ce soit une affaire vraiment très choquante. Mais bon,
et vous Jean-Christophe, vous aviez entendu le procureur dire qu'on ne pouvait pas faire ça aux gilets jaunes quasiment.
Ah bon, si c'est les gilets jaunes qui déterminent la justice en France...
Ah mais oui, ils déterminent tout. Ils vont même au Sénat, puis c'est annulé.
Non mais on est en droit de trouver par exemple que la justice japonaise est assez étrange, assez sévère, mais elle correspond à son histoire. Et dans le même temps, se réjouir que la justice française... et des lois qui permettent à des gens qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison, qu'ils soient en col blanc, en col bleu, en col noir, en col jaune ou en gilet jaune, à ne pas purger leur peine. C'est arrivé pour le boxeur du gendarme Christophe de Tain.
Bah, je me rappelle qu'il a fait de la préventive. Il a fait plus d'un mois et demi. Il a fait plus d'un mois et demi de prison. Oui,
La justice considère que frapper des forces de l'ordre dans l'exercice d'une fonction est plus grave que détourner l'argent. On peut trouver ça choquant. Le fait est que la justice française a déterminé ça. Donc, à partir du moment où ce qu'il va faire ou ne pas faire est dans l'ordre des choses judiciaires, il n'y a pas tellement lieu de le contester. Et comme le dit Isabelle, en plus, il va faire médecin généraliste dans un territoire rural qui a besoin de médecins. Et ça, je pense, moi, c'est ça que je retiens qui me paraît le plus important. On peut ricaner là-dessus, mais étant catholique, je crois à la rédemption et je crois que Cahuzac sait ce qu'il a fait, sait les bêtises qu'il a fait. Il a payé son amende, il a payé, il ne fera plus jamais la politique, alors que souvenez-vous, on rêvait de lui presque comme premier ministre. Il a payé, on peut estimer que c'est pas assez. Moi, je pense qu'il est dans une démarche, effectivement, de réintégration, de réinsertion. Et ça, la loi est faite pour que ces gens-là, justement, suivent cette voie-là, en espérant qu'il ne récidivera pas. Mais, à mon avis, il aura du mal à récidiver en étant médecin généraliste en Corse.
Oui. Sauf en déclarant pas ses impôts de médecin généraliste.
Non, il n'y a pas de sous-entendu. Oui, tant pis pour le débat, mais je suis d'accord avec mes petits camarades.
Ah bah alors ça va aller vite, ce premier sujet.
La loi permet en effet, pour une peine de 2 ans, que on, on, on réduise la durée ferme. Il y avait un an ferme, et l'enferme est remplacé par cette surveillance électronique. Ça se fait pour des tas de gens en France. Je vois pas pourquoi ça se ferait pas pour Cahuzac. On a consulté l'administration pénitentiaire, qui a donné son avis favorable, et on a regardé son projet de réinsertion, qui a paru correct. Alors, je vois pas pourquoi le procureur s'acharne. Je vois pas pourquoi toute une partie de l'opinion publique tient absolument à la case prison. Comme si, quand on condamne quelqu'un, il fallait que ce soit forcément la prison, qu'on paye derrière des barreaux.
Vous entendez le truc un peu démago, mais rapide, qui est les petits voleurs de mobilettes, eux font de la prison,
non,
et
non,
pas
non,
le...
Non, rassurez-vous, la plupart n'en font pas non plus. Non, même en général, ils n'en font pas, et il y a beaucoup de gens qui râlent d'ailleurs contre ça. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que pour le moment, il n'est pas médecin généraliste encore, c'est son projet, parce que le Conseil de l'Ordre des médecins, lui, continue son essai de vengeance, et veut d'abord, avant de lui donner éventuellement l'autorisation, qu'il lui a refusé jusqu'à maintenant. Il lui avait déjà refusé pour un hôpital en Guyane. Peut-être ils ont quelque chose contre les îles, au Conseil de l'Ordre. Et donc, pour la Corse, ils n'ont pas encore donné.
La Guyane n'est pas une île, Roland Caron.
Ah, pardon.
Vous aussi, il faut la rappeler.
On la connaît, celle-là, oui. Et donc, ils veulent maintenant vérifier les connaissances médicales de Cahuzac avant de lui donner l'autorisation d'être médecin généraliste. Bon, voilà, il y en a qui sont vraiment des gens qui pratiquent la vengeance. Moi, je crois qu'il ne faut pas pratiquer la vengeance, qu'il faut pratiquer la condamnation et espérer que les gens, en effet, soient vers la rédemption, soit en tout cas vers une réinsertion.
Et vous avez couture.
On est vraiment dans un... Là, je lisais un certain nombre de commentaires, j'écoutais ce que disait tout à l'heure Bruno Galeret, et cette espèce d'instrumentalisation de la justice qui devient... où on fait de la justice un instrument d'opinion, avec une valeur symbolique de la peine.
C'est ce que ça veut dire.
Ça veut dire quoi? Mais ça ne veut rien dire. Je suis désolé, il y a une justice, elle s'applique, il y a des lois, il y a des règles, il y a un tribunal qui s'est exprimé. Honnêtement, ce cas, la manière dont le parquet d'Ajaccio a essayé par tous les moyens d'obtenir que Jérôme Cahuzac aille en prison, me paraît totalement hors du champ même de la légalité. D'ailleurs, Antoine Vell a dit très justement, il y a des règles, elles s'appliquent, elles se sont appliquées, le parquet, le tribunal d'appel, le jugement est conforme à ce qui est en général prononcé dans des situations analogues. Il n'y a pas de valeur symbolique de la peine pour satisfaire une opinion. On n'est pas dans un rapport où on lynche un homme parce que ça fait plaisir à je ne sais qui. Ça n'existe
c'était
pas.
C'était plus à l'inverse, la façon dont on parlait de procureur. C'était pas pour faire plaisir, c'est pour éviter des débordements d'une
pour
certaine manière.
Puisque
c'était dans le sens qui présentait les choses.
Mais c'est quand même incroyable.
Un
procureur dise, l'opinion ne comprendrait alors, pas. C'est incroyable.
L'aménagement avait été. Moi, je voudrais juste simplement, parce que ça m'a fait sourire, mais ça n'enlève rien à ce que j'ai dit à propos du fait que Jérôme Cahuzac n'est pas en prison. Mais le 13 février, parce que c'est le 13 février qu'en fait, l'aménagement de la peine de Jérôme Cahuzac a été prononcé. Et ce que j'aime beaucoup, ce sont les attendus de cet aménagement qui. Les regrets manifestes du condamné ont permis ces ménagements. L'autre, c'était le risque de récidive est écarté. Et enfin, l'implication durable dans différents projets, notamment professionnels, justifie cet aménagement. Alors, il y a un côté un peu ridicule dans ces attendus. Ça n'enlève rien à ce qu'on a dit. Évidemment, je me réjouis que Jérôme Cahuzac puisse essayer de sa vie, entre guillemets, ruinée. Le témoignage de sa fille. Sa fille a écrit un livre sur le sujet, Diane
ce
Montier,
matin, sur RTL.
Qui était vraiment, on voit bien, bon, voilà, je dis pas qu'il a payé sa peine à la société, qu'il a payé son dû, mais enfin, on peut considérer qu'une peine, la justice s'est exprimée. La peine est aménagée, on ne peut que se réjouir qu'effectivement, on manque de médecins en Corse. On ne peut espérer que le Conseil de l'Ordre finira par le restaurer dans sa fonction de médecin.
Allez, vous êtes tous les quatre d'accord sur le sujet. Un autre sujet dans un instant, la gauche de la majorité qui se rebiffe.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
Avec ce soir Roland Quérol, Xavier Couture, Jean-Christophe Bisson, Isabelle Saporta, des frondeurs au sein de la République en marche. En tout cas, on n'est pas encore là. Mais l'aile gauche de la majorité se réveille. Avant les décisions post-grand débat, plusieurs députés s'agacent du lobbying des ministres de droite. Entre la réforme des retraites, la baisse des impôts, le déficit, la loi anti-casseurs, les sujets de discorde ne manquent pas. Jean-Pierre Mignard, macroniste historique, et le député Aurélien Taché lancent même un laboratoire de la gauche démocrate au sein de la majorité. Absurde pour Édouard Philippe. Alors le clivage gauche-droite n'est pas terminé. Ça va finir par tanguer, comme vous voyez les choses, sur les réseaux sociaux. Benoît Galeret.
Oh, ça va être plus sanglant que la prochaine saison de Game of Thrones. Lâche déjà Herman et Liam de fustiger cette gauche du parti, Guillaume Chiche et la bande de Poitiers. députés, ces hommes du PS qui refusent le droite et gauche d'Emmanuel Macron. Ils n'ont pas leur place dans le parti. Non, stop aux divisions inutiles, en avant, souplie plutôt Gauthier. Mais Johan balaye tout ça, que celles et ceux qui veulent refaire le match entre la vieille droite et la vieille gauche ne s'attardent pas trop à En Marche. Ça n'a jamais été notre sujet. Le député Sébastien Lecornu confirme, nous ne sommes pas là pour inventer le clivage gauche-droite, ce serait une erreur et même une faute. Son confrère Bruno Questel de confirmer, notre rôle est de transformer, moderniser notre pays pour que le plus grand nombre y soit heureux, pas de réinventer la lutte des classes. Ah, c'est pour ça que vous gouvernez à droite-droite, demande Michel. Pierre pourtant fait les comptes. 126 députés En Marche sont d'anciens élus de gauche, 48 anciens élus de droite et 17 anciens centristes. Matricane pour sa part, c'est surtout un parti d'opportunistes qui concentre les pires arrivistes de chaque parti d'origine. C'est surtout, ironise en rage, que le temps des amalgames et de la globalisation est venu. Préférons l'affrontement progressiste contre populiste, élite de rendez-vous contre populace. C'est sûr que c'est plus intéressant qu'un débat gauche-droite constructif. Ni gauche ni droite, conclut Jacqui, le Premier ministre l'a avoué. C'est Macron seul qui gouverne. Il dit, personne au sein du gouvernement n'ouvre un débat sans que la question nous ait été adressée par le président de la République.
Roland Carole, est-ce que ça, cet alliage finalement va pouvoir durer ou alors c'est le début des problèmes?
Je veux dire, deux choses peut-être. La première, c'est que Macron n'a jamais dit ni gauche ni droite. Il a toujours dit et gauche et droite.
Absolument.
Nous expliquant que c'était des sensibilités qui dureraient dans la vie politique française, comme elles durent depuis longtemps. Ce qu'il fallait simplement, c'est qu'on gouverne avec des gens de gauche et des gens de droite.
Mais est-ce que c'est possible
élections. Alors, la preuve que c'est possible, c'est que c'est comme ça depuis deux ans.
Ah bah oui, mais bon.
Et que ça n'empêche pas d'avoir des sensibilités. Et justement, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des moments où ça se réveille plus. Là, pourquoi ? Personne ne sait dans la majorité ce que va dire Macron mi-avril. Mmh. Et donc, un, c'est pas mal de faire pression pour montrer que ça pourrait aller dans le sens où on a envie d'aller. Deux, ça permet de se situer par rapport à ce que dira Macron à ce moment-là et de rejouer un petit peu la pression. Et puis, du coup, il y a les rumeurs. Il y a les rumeurs sur ce que va dire Macron et il y a la rumeur sur va-t-il changer de Premier ministre ? Et si il change, d'abord, est-ce qu'il changera ? Moi, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il va garder celui-là jusqu'au municipal. Hein. Mm-hmm. Mais cette rumeur existe. Édouard Philippe n'a pas envie de partir et donc il a intérêt à montrer qu'il existe, y compris politiquement. Bien qu'il soit totalement loyal à Macron, il est normal qu'il fasse entendre sa petite musique. Et comme par hasard, ceux qui sont a priori d'accord avec lui dans le gouvernement, le disent aussi. Et du coup, évidemment, ça réveille ceux qui préféreraient, si jamais il s'en allait, et si jamais, par exemple, c'était Le Drian qui était appelé à Matignon, eh ben, constituer ceux qui seraient les gagnants du changement de gouvernement. Je crois que tout ça est amusant, ça permet d'avoir un petit match assez marrant, mais assez feutré, en même temps
ça.
Assez clair.
Pas plus que ça.
Mais je crois que ça n'ira pas beaucoup plus loin, parce que je crois que jusqu'au municipal, il n'y aura pas de vrai changement.
Il n'y a pas de match, surtout. Il n'y a pas de match entre la droite et la gauche au sein de ce gouvernement.
Ah, ça, alors ces jours-ci, quand même, c'était rude.
Mais, d'accord, mais il y a un match, si vous voulez, entre le Barça et sans faire...
Sans offenser personne,
sans offenser c'est ça que ce soit, le football club de Guignon, par exemple.
Mais qui est la droite et la gauche dans votre image ?
Le Barça, c'est la droite,
Zidermanin,
c'est ça.
Puis Le Cornu, puis... Puis, tandis Philippe et le maire se permettent cette offensive
qui est grosse.
C'est Darmanin qui a lancé, mais les autres l'ont soutenu. Édouard Philippe, au bureau exécutif de la République En Marche lundi soir, a défendu Darmanin contre cette petite fronde de gauche en disant maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Si joue ce jeu-là, c'est-à-dire si vous ne faites pas ce qu'on a décidé de faire, on s'en va. C'est qu'ils se sentent forts. Et ils se sentent forts, il faut qu'ils fassent quand même attention, parce que s'ils s'en vont, je ne sais pas très bien où ils vont, parce que je ne suis pas sûr que Wauquiez les accueille comme des brebis égarées de retour. Mais ils se sentent assez forts pour dire c'est quand même nous qui menons la politique, on a ce mandat. Et en face, il y a qui ? En face, on a la bande de Poitiers, c'est-à-dire 10 ou 15 jeunes élus qui n'ont jamais exercé la moindre responsabilité ministérielle. Ils font un peu pression pour dire on existe, parce qu'ils sont vexés, parce qu'effectivement, dans le remaniement, le dernier remaniement.
Pas plus que ça, pas pour peser un peu quand même malgré tout
mais
sur
non, parce que
Si Jean-Christophe les connaît pas, c'est qu'ils n'existent pas.
Vous êtes capable de me citer les 10 noms de la bande de Poitiers ?
Ah ben
d'accord.
Vous en citez plus que ça. J'en ai même cité un qui n'est pas dans la bande de Poitiers et qui, lui, est Premier ministre.
Ouais, les autres, vous ne les citerez pas, je fais le pari. Mais bref, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le réservoir de voix de Macron, il n'est pas à gauche. L'état dans lequel elle est, et elles sont déjà prises, elle est à droite. Donc il ne peut pas se permettre de pencher à gauche. C'est pour ça que dans le dernier remaniement, il prend une ex-jupéiste et deux personnes de l'Élysée. Il va pas piocher dans les anciens du PS, de qui que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite... Mais je suis tout à fait d'accord avec Roland Carroll, ça n'ira pas plus loin, ça ne peut pas aller plus loin.
Ben, c'est vrai que Isabelle, moi je suis assez d'accord aussi avec Jean-Christophe Buisson, c'est-à-dire que j'aimerais bien, au fond, que ce soit mu par de vraies valeurs, que ces hommes de gauche ou prétendument de gauche nous disent que là, c'est pas possible, autour d'Édouard Philippe, etc. Moi, j'aimerais qu'effectivement, ce soit pour eux un vrai marqueur social, cette question, puisque c'était ça normalement qui faisait tout vriller, de la retraite, puisque c'était un engagement de Macron de ne pas reculer l'âge de la retraite, et que ce soit pour ça qu'ils se battent. Et dans ces cas-là, moi, je suis prête effectivement à les écouter et à les entendre. Parce que c'est un vrai thème. Parce que c'est un vrai thème, et je trouve qu'au moment où on est en train de rendre, soi-disant, le débat national avec les gilets jaunes qu'on a dans la rue depuis des mois, je pense que le marqueur de dire, au fond, on vous a bien entendu les mecs, vous pouvez retourner sur les ronds-points autant que vous voulez, parce que nous, la retraite... ce sera beaucoup plus tard, je pense que ce serait une faute politique. Donc je pense que l'arrogance de ces personnes de droite est trop forte et qu'au fond, Macron ferait bien de les siffler un peu. Maintenant, je suis assez d'accord avec Jean-Christophe Buisson, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il y ait une once de loyauté des idéaux de gauche de la part de ces gens-là. Je pense que juste, ils veulent arriver au pouvoir et je trouve ça assez détestable. Voilà.
Ouais, alors, la même analyse, vous, Xavier,
pas tout à fait. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Depuis le début du macronisme, on répète qu'en ayant quasiment dissous la droite traditionnelle avec un Wauquiez qui se débat comme il peut et une gauche qui a été miettée façon puzzle, j'ai toujours pensé qu'à un moment ou un autre, il fallait que La République En Marche se crée sa propre opposition parce qu'aucune démocratie ne peut vivre dans l'unanimisme. Et on le voit bien. Je crois que les sujets sur lesquels il y a l'affrontement, c'est-à-dire les retraites, la loi anti-casseurs, il y a le déficit public qui va être un vrai sujet d'affrontement. Tout cela me laisse penser tout de même que l'atterrissage du grand débat va être beaucoup plus compliqué pour Macron qu'il ne l'imagine. Et qu'il y ait aujourd'hui au sein... sur la base, je ne dis pas effectivement peut-être dans l'élite de La République En Marche, mais à la base, ceux qui ont fabriqué Emmanuel Macron, qu'il y ait quand même une sensibilité de gauche qui se plaigne amèrement de cette dérive, ça me paraît évident. La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, Macron, il est quand même sacrément en difficulté si c'est Darmanin et Édouard Philippe qui font la loi. Parce qu'en fait, la réalité, elle est là. C'est qu'il s'exprime avant le président de la République, sur des sujets majeurs, en ayant l'air de dire « c'est nous qui décidons ». Moi, je veux bien que le président de la République se mette dans leurs bottes, mais il va vraiment donner l'impression d'être au service d'une certaine idéologie de droite qui est venue totalement coloniser le macronisme.
On en dit un mot dans un instant, avant de parler ensuite de la victoire de Netanyahou en Israël.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier
Allez,
Fogiel.
On reprend donc notre débat sur les tiraillements entre la gauche et la droite au sein de La République En Marche. Jean-Christophe Buisson, pour rebondir sur ce que vous avez écouté.
Écoutez, en parlant d'idéologie, ça rejoint ce que je veux dire sur les frondeurs. S'il y avait vraiment des frondeurs à La République En Marche, aujourd'hui, on ne les entendrait pas sur le projet des retraites, on les entendrait sur un sujet dont ils auraient dû s'emparer, qui s'appelle la privatisation des aéroports de Paris.
Oui, tout à fait, je suis entièrement
d'accord.
C'est
quand même lucombe que ce soit la droite, pas que la droite évidemment, la France Insoumise aussi, et tout le monde, tous les non-République En Marche, qui s'emparent de ce sujet pour trouver que c'est scandaleux, cette privatisation des aéroports. S'il y avait des vrais frondeurs de gauche au sein de la République En Marche, ils rejoindraient. Il n'y a pas de discipline de parti, à ce que je sache, comme
quand même.
Bah, il n'y en a pas écrit comme il y en avait dans les partis de gauche autrefois.
Cela dit, vous savez comme moi.
Ils n'ont rien dit.
Vous savez comme moi qu'ils sont ravis.
Allez-y sur ce sujet.
C'est-à-dire, vous savez comment ils sont ravis, pardon.
Ah, parce qu'on sait que, enfin, moi je sais qu'il y en a un certain nombre de ces députés plutôt à gauche de La République En Marche qui sont très contents que ce référendum puisse voir le jour et qu'en tout cas il y ait eu suffisamment de signatures.
Pourquoi ils ne se sont pas exprimés? Pourquoi ils se sont dégonflés?
C'est facile.
Rappelez-vous les frondeurs de Hollande, il y en a un certain nombre qui n'ont pas exprimé ou qui n'ont pas exprimé très vite et qui étaient très contents qu'il y en ait d'autres à leur place qui s'expriment.
Mais ils ont fini par le faire. Alors qu'au sein du PS, il y avait vraiment une discipline partie, c'est-à-dire quand on signe, on vote comme le parti. La faute de Hollande, c'est aussi de ne pas les avoir punis tout de suite, par parenthèse. Mais là, il n'y a pas discipline de parti. La République En Marche, ils ne seront pas exclus du parti s'ils votent ou s'ils s'abstiennent sur
Oui, donc ils ont un peu de courage.
C'est trop facile de dire.
C'est pas mal.
Oh là là, c'est trop à droite, ce gouvernement, etc. Mais prouvez-le que. Bah non, ils ne le font pas. C'est pour ça que je ne crois pas.
Vous êtes aussi sûr que. Pardon, vous êtes aussi sûr que.
Le sujet le plus grave
pour l'aéroport de Paris.
La gauche et la droite, c'est la privatisation de l'aéroport de Paris.
C'est sûr.
Je dois dire que.
Pardon, si vous voulez bailler,
c'est que vous n'avez pas.
On en a débattu hier. Non, mais vous êtes aussi sûr de vous qu'ils ne seraient pas tapés sur les doigts si ils exprimaient leur mécontentement au sein de la République en Marche.
Je ne crois pas que dans les statuts de la République en Marche, on exclut un député qui vote, qui vote contrairement au PS.
Ça n'empêcherait pas qu'il se fasse taper sur les doigts.
J'irais même plus loin que vous, Jean-Christophe Buisson. C'est qu'au fond, s'il y avait vraiment des gaullistes sociaux à l'intérieur de ce gouvernement, ils seraient aussi en train de s'ériger contre cette privatisation. Parce que, soi-disant, ces jupéistes, ces anciens jupéistes sont censés être des gaullistes sociaux. Ils devraient être contre. On a entendu ce matin chez Elisabeth Martichoux, Madame Gouriot, Jacqueline Gouriot, qui était soi-disant très proche de Bayrou, qui s'était érigée contre la privatisation des autoroutes, et qui là nous disait tout va très bien, Madame la Marquise, ce n'est pas si gênant que ça. Donc je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de gens de gauche, mais il n'y a pas de gaullistes sociaux non plus, il n'y a que des libéraux là-dedans.
Il y a surtout pour l'instant des gens qui n'osent pas s'exprimer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Non, je pense que ce sont des vrais libéraux, c'est tout.
Écoutez, moi, encore une fois, moi, je me fais mon comparatif permanent de voyageurs, de passagers entre Aéroports de Paris et ses concurrents mondiaux, et je n'attends qu'une chose, c'est que la gestion de cet aéroport change. Alors si vous me dites qu'il faut être très à gauche ou très à droite, moi, je m'en fiche. Il faut privatiser les aéroports de Paris.
Il a beaucoup changé.
On va pas privatiser tous les voyous de la République.
Point final. Non, le travail qui a été fait par la dernière équipe est un vrai travail.
Cela dit, il y a eu 50 députés de la République en marche qui se sont abstenus sur l'article 3 de la loi anti-casseurs. Il se trouve justement qu'elle a été annulée par le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République. Donc, de temps en temps, il y a des choses qui se passent et qui vont dans le sens de...
Et ils n'ont pas été punis.
Enfin, de tempérament de gauche dans la majorité.
Enfin, c'est quand même Decourson qui s'est érigé, qui a fait un discours poignant sur cette loi justement anti-casseurs, et c'est pas les députés de la République en marche.
Bah, vous n'avez pas écouté le débat parlementaire.
Bien envoyé.
Excusez-moi, la seule parole forte. Vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on
Non, celle que vous avez entendue, mais apparemment pas les autres, mais moi je ne les ai pas écoutées non plus.
Allez. Il l'a écouté, il l'a même appris par cœur.
Allez, dans un instant, on débriefe l'élection d'Israël.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Faugier.
Et avec Isabelle Saporta, Jean-Christophe Buisson, Xavier Couture, Roland Kayrol, bis repetita, donc pour Bibi, 10 ans qu'il est au pouvoir, il a encore gagné. Benjamin Netanyahou est donné vainqueur des élections législatives en Israël. Vous avez vu donc Benny Gantz a reconnu sa défaite. Donc, pour Donald Trump, la victoire de Netanyahou augmente les chances d'aboutir à la paix. Et pour vous, Jean-Christophe Buisson?
C'est plutôt les bonnes chances de voir son pouvoir conforté, parce que Trump a fait quand même quelque chose d'incroyable il y a quelques mois, et je pense que non seulement l'ambassade, mais la reconnaissance du Golan comme parti d'Israël, ce qui
c'est
quand même,
du Golan.
Un énorme geste en faveur d'Israël qui a conforté Netanyahou, notamment vis-à-vis d'une certaine droite et vis-à-vis des partis religieux.
Contraire aux résolutions des Nations Unies,
absolument,
je peux me permettre.
Il faut
quand même insister sur le fait que là, il y a une...
Non, je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que c'est les Israéliens qui votent et pas la France, quoi, dans les élections israéliennes. Et donc, il s'est passé comme ça se passe depuis des années en France, c'est-à-dire qu'on espère toujours que c'est le candidat de gauche qui va gagner, c'est toujours le candidat de droite qui gagne. Désolé, c'est arrivé au Brésil, c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Italie, c'est arrivé en Autriche, c'est arrivé en Grande-Bretagne. Enfin, la liste est longue. Et on a toujours les mêmes arguments, expliquer, mais ça y est, il est usé, il veut pas faire la paix, c'est un militariste, c'est un raciste, etc. Et puis à la fin, il gagne. Et d'ailleurs, il gagne en mangeant sur l'électorat très, 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 très à droite, et vraiment raciste, israélien qui existe et qui veut vraiment débarrasser la terre des Palestiniens. Et ça, c'est plutôt une nouvelle dont on devrait se réjouir, parce que je pense que Netanyahou n'est pas le monstre qu'on présente. Je vous rappelle qu'en 2006, c'est lui qui a proposé de laisser à Gaza la gestion de son territoire, et que ça s'est très mal passé, et que depuis ce jour-là, les Israéliens ne croient plus en la paix. Les Israéliens, ceux qui votent, ne croient plus en la paix parce qu'il n'y a plus d'interlocuteur en face. Et donc lui, il surfe sur ce fait, et aujourd'hui, il se retrouve encore Premier ministre alors qu'il a 70 ans et qu'on le disait usé, fatigué,
Et corrompu,
oui.
Ouais, c'est une élection un peu intéressante parce que c'était la première élection en Israël vraiment entre la droite et la droite. C'est-à-dire
qu'il n'existe... Le rêve.
C'est le rêve, quoi. Il n'existe vraiment plus rien d'autre. Et le parti travailliste israélien...
Il faut leur envoyer Mignard.
Le parti travailliste israélien a même réussi à faire le même score que Benoît Hamon dans la dernière élection française. Alors que quand même le travaillisme a longtemps été ce qui a porté l'État d'Israël.
Bien sûr.
Bon, c'est une chose tout de même assez incroyable, et donc on va avoir une alliance là entre la droite et l'extrême droite la plus extrême.
Pas la plus extrême.
La plus extrême, pas la vous plus verrez. Extrême. Et moi, ça m'est absolument égal que Israël se donne, les Israéliens se donnent le gouvernement qu'ils veulent. Du point de vue de la paix, c'est quand même plus inquiétant.
Parce c'était que ça le sujet. Ouais.
Il a quand même balancé dans la campagne la nécessité de l'annexion des parties occupées de la Cisjordanie.
Des colonies.
C'est-à-dire que là, c'est pour ça que j'appelle ça la partie.
C'est pas toute la Cisjordanie non plus. Oui. Non, on a l'impression, en vous entendant, que ce serait toute la Cisjordanie.
Non, la partie occupée de la Cisjordanie.
Non, des colonies juives de la partie occupée de la Cisjordanie.
Vous voulez
je l'appelle comme elle s'appelle.
Et donc, comme elle s'appelle en Israël, oui.
Bah oui, parce qu'on parle d'Israël, donc ça tombe bien.
Alors on n'a pas le droit de parler autrement.
Mais si, bien sûr, je vous en prie.
Allez, parce qu'il reste 2 minutes pour tout le monde.
Bon, donc simplement, ça veut dire que toutes les chances de voir un jour la paix revenir, et notamment la paix à travers deux États, sont là gommées d'une façon extrêmement sérieuse, sans même qu'il n'y ait plus de voix pour s'en étonner dans la région. Je trouve que c'est dangereux et dommageable.
Mais vous pouvez reconnaître que les Palestiniens sont un peu responsables aussi.
Non, mais bien sûr, mais on est d'accord, Jean-Christophe. Mais quand on vous entend, on a l'impression qu'il y avait une sorte d'unanimisme pour que Netanyahou revienne. Non, il ne faut pas charrier quand même. Il a fait à peu près jeu égal avec Gantz. C'est par le jeu des alliances qu'il va pouvoir...
Vous avez l'impression que Gantz promettait deux États aussi.
Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un procureur qui s'appelle Avishai Mandelblit et qui a dans son cartable un certain nombre d'accusations de corruption et que malgré tout, M. Netanyahou pourrait terminer en prison. Donc, moi, je veux bien que ce soit une chance formidable pour Israël, mais enfin, ce n'est pas le personnage politique le plus emblématiques pour l'État d'Israël, d'une part. D'autre part, on ne peut pas se réjouir que les Nations Unies soient foulées aux pieds et que les colonies qui ont lieu dans la haute vallée du Jourdain soient aujourd'hui considérées comme tout à fait normales et naturelles, et tout ça approuvé par le gouvernement américain. Et j'ajouterais que ce n'est pas tout à fait rassurant non plus de voir Netanyahou obligé de s'associer avec les ultra-orthodoxes qui ont fait effectivement beaucoup de voix, parce qu'effectivement si l'extrême droite n'a pas énormément progressé, les ultra-orthodoxes religions ont progressé. Tout ça n'est pas de très très bon augure pour Israël, si je peux me permettre.
Isabelle, pour conclure.
Bah écoutez, moi je suis assez désespérée en fait, parce que je trouve que le monde tel qu'il se redessine aujourd'hui, effectivement avec un Trump qui était presque au bord de l'ingérence en fait quand même dans ces élections israéliennes, en disant que son candidat c'était quand même Netanyahou et que son gendre allait s'occuper de la paix avec Netanyahou après, quand on voit Bolsonaro, quand on voit... Moi, je trouve qu'on est dans un climat qui est très angoissant, parce que finalement, ce sont les plus populistes, les plus extrêmes, en tout cas ceux qui font le plus de mouvements de bras belliqueux, qui l'emportent un peu partout, soi-disant qu'ils vont nous procurer la sécurité. Pour le moment, ils procurent rien d'autre que d'attiser la haine. Et moi, je trouve ça assez désespérant, en fait.
Allez, merci à tous les quatre d'avoir refait le monde ce soir sur RTL. Dans un instant, ça sera le flash de 20h avec Quentin Vinet, et ensuite, ça sera l'heure du crime avec Jacques Pradel. À tout de suite sur RTL.